Donc bah, vous étiez au bourg, hein, juste à côté, hein. Vous étiez le Saint-Germain-des-Sols, c'est juste là, on voit le clocher, et le château du Castéra au-dessus. Alors, petite séance souvenir, je reviens encore à 1988. Donc, comme il y a des fois, on en avait marre de nous voir balayer ce sol de Fanum, il y a des fois, on nous a dit, écoutez, il y a d'autres chantiers autour, vous allez donner un coup de main aux équipes autour. Et donc, j'ai été séparé de mon collègue, et donc on m'a introduit ici. Il y avait beaucoup plus d'arbres que ça, et on m'a dit, il y a un dolmen qui est en cours de fouille. Les fouilles avaient commencé 2 ans avant, elles avaient commencé dans les tout début des années 80, et là, le chantier a été complètement arrêté en 90, genre 2 ans avant le chantier de Brigand. Et donc, c'était un chantier dirigé par André Coffine. André Coffine est notre spécialiste de la Gironde, en Gironde, qui est décédé depuis. Et donc, alors là, par contre, j'ai vraiment été très, très bien accueilli. Et il m'a dit, pour la journée, la seule chose que je peux te faire faire, c'est du tamisage. Donc, on m'a mis sur le tas de terre, qui est là, ici. Et donc, je me suis retrouvé avec un tamis. Et toute la journée, j'ai fait du tamisage. Ça m'a occupé. Et je ne savais pas trop ce que je devais ramasser, jusqu'au moment où j'ai vite compris. En fait, j'ai collecté des dents toute la journée.
Des dents humaines.
Des dents humaines, puisqu'un dolmen, c'est une tombe.
Et
effectivement, le tas de terre qui était là, c'était le tas de terre qui était là depuis 1905, 1907, parce que figurez-vous qu'il y avait déjà eu des fouilles archéologiques à cet endroit-là. Autant la ville romaine, on ne l'avait pas remarqué, que ce dolmen, on connaissait. L'endroit était connu depuis le XVIIIe siècle parce que ça s'appelait le bois du Carneil, le bois du Charnier, ça veut dire en patois, le bois du Charnier. Et donc, effectivement, déjà dans les années 1870-1876, on avait signalé une fouille sauvage et clandestine qui avait été réalisée sur un dolmen. On pense que c'est sur celui-ci. Et la Société archéologique de Bordeaux, qui naissait au même moment, avait quand même pris note de la découverte de ce dolmen. Et 30 ans plus tard, l'un de ses membres fondateurs, qui est très connu, c'est l'abbé Labrie, qui était le collègue de François Dalou, celui qui a découvert la grotte Pressoil de Pernampère. L'abbé Labrie, il était curé à Lugasson, dans l'Entre-deux-Mers. Et donc, il ne pouvait pas être ici tous les 4 matins. Il a quand même entrepris la fouille de ce dolmen en 1905. Et pour une fouille de cette époque-là, bon, vous allez voir quand même que les conditions de fouille étaient assez suspectes. Mais il a publié sa fouille, lui, au moins il a publié sa fouille, qui a été publiée 2 ans plus tard, en 1907. Et ça a été publié dans la Société archéologique de Bordeaux. Et alors il nous explique comment il a fait. Comme il était curé de paroisse, il ne pouvait pas se libérer comme il le voulait. Donc il a loué les services de journaliers, c'est-à-dire de types qui sont venus creuser pour lui, mais qui n'étaient absolument pas archéologues du tout. Et ces gens-là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vidé le domaine de dolmen à la pelle et à la pioche. Ils ont fait un tas de terre, ils allaient à la brouette, c'était ici, ça a été entassé, et puis ils ont quand même trouvé des poteries entières, ils ont trouvé quand même l'équivalent de 80 squelettes. Dans celui-là, oui, tout à fait. Alors là, on va le décrire, mais il faisait 6,50 m de long, la chambre funéraire qui se termine par la porte qu'il a fait 4,50 m sur 2 m, et il y avait le petit corridor que vous allez entrer qui faisait 2 m sur 2 à peu près. C'était vraiment un peu comme un temple romain avec une stella et puis une entrée. Et l'abbé Labrie, donc fier de sa fouille, c'est resté comme ça. C'est redevenu un lieu de prospection clandestine et de fouilles clandestines encore dans les années 60-70, après la Seconde Guerre mondiale. Et donc en 1985, André Coffine a entamé la fouille de ce dolmen. Et donc c'est là que je l'ai rejoint 3 ans plus tard. Et lui, en fait, persuadé qu'il n'y avait plus rien à voir, a juste dégagé. Bon, il y avait de la terre qui était retombée dedans. Il a dégagé la terre. Et puis, alors, il a fait une trouvaille extraordinaire. C'est qu'en arrivant pratiquement au niveau du sol, parce qu'il y a une dalle qui est pratiquement posée en bas, puis il est tombé sur une cargaison astronomique de bouteilles de vin en verre qui avait été laissée par les fameux 2 journaliers qui avaient fouillé entre 1905 et 1905. Donc ça, ça a été le scoop. Apparemment, ils avaient beaucoup bu aussi. Voilà.
C'était des vrais.
Ah, je n'irais pas dire ça, madame. C'est pas fait de lire. Si, si, ça, c'est, toutes ces informations sont publiées. Ça a été publié. Il y a un livre entier qui a été fait. Il y a le livre de la fouille qui a été fait. C'est un gros, beau livre de 90 pages. Là, tout est présenté. Et alors, la trouvaille, c'est qu'en dessous des bouteilles de vin, il s'est rendu compte qu'il restait encore la terre qui était au contact de la dalle en pierre, et puis qu'entre les montants, puisque vous voyez que c'est pas un lieu régulier, hein, entre les montants du dolmen, il y avait des espaces, et en gratouillant, eh bien, il a trouvé un niveau en place, avec encore des ossements humains en place, et la grande découverte, ça a été surtout de trouver des crânes en place, qui avaient été fichés entre les montants, dans les parties creuses entre les pierres. Eh bien, il y avait, quand vous enterriez quelqu'un, c'est quand même un dolmen qui a servi pendant à peu près 2000 à 3000 ans. Donc c'est vraiment une tombe collective qui a servi longtemps. Et donc, il a commencé au néolithique, on utilisait encore la jus bronze. Et ce qui se passait, c'est quand on avait quelqu'un à enterrer, quand le dolmen a été plein, ce qu'on faisait, c'est qu'on poussait les os au maximum contre les parois pour remettre les nouveaux à l'intérieur. Et donc souvent, ce qui comptait le plus, c'était la boîte crânienne du défunt. Il y a quelque chose d'assez important là-dessus. Et donc en fait, pour au lieu de pousser les os vulgairement, la boîte crânienne, elle a été soigneusement encastrée dans les espaces libres entre les pierres. Et c'est ça qu'André Coffin a découvert. Alors, cette fouille a été terminée en 90, ça a été publié, le matériel est parti au musée d'Aquitaine, le reste a été entièrement publié par la maison de l'archéologie à Bordeaux 3. Et ce dolmen a révélé énormément de choses, avec une occupation qui commence aux alentours de 3000-4000 avant Jésus-Christ, qui cesse à l'époque romaine. Alors, en quoi les Romains sont venus s'intéresser à ça? Premier élément. Donc, une fois que la partie centrale a été fouillée, on s'est rendu compte que ce n'était pas un dolmen qu'on avait, mais une allée couverte. Donc, ah ouais. 6 mètres 50, ça commence à faire.
Oui, oui.
Un dolmen, généralement, c'est deux montants, c'est à côté avec une table. Alors que là, ça fait un véritable couloir qui est pratiquement orienté ouest-est. C'est assez courant à cette époque-là. Et ce qui est absolument remarquable, comme dans une église, c'est qu'au mois de juin, au moment du jour le plus long, et quand le soleil se lève, les arbres gênent, mais normalement le soleil irait aboutir dans la dalle du pied. Voilà, donc ça c'est assez bien calculé.
C'est belle.
Et cette chambre funéraire, en fait, a été bâtie sur quelque chose de plus ancien. Et ça, c'est la destruction pour la fouille du tumulus. Vous voyez que vous avez encore un dôme de terre dessus. Mais ce qui reste du tumulus, ça c'est rare. Souvent les dolmens, il ne reste plus qu'un squelette de pierre. Hein. Le dôme de pierre et de terre a disparu. Et bien là, en dégageant à peu près un quart de ce dôme de terre, André Coffin a trouvé des substructions, des trous de poteaux avec de la poterie, ce qui laisserait supposer que ce dolmen a peut-être été bâti sur une maison plus ancienne du néolithique moyen, aux alentours de 3005 avant notre ère. Ça, c'est une première. C'est très rare que l'on trouve un lien entre un habitat et un lieu funéraire. Ensuite, lorsque le dolmen est bâti au néolithique récent, final, nous sommes entre 3000 et 2000 avant Jésus-Christ. On construit donc la chambre funéraire d'abord, et ensuite on va élever un dôme de terre à l'intérieur, autour, tout autour, dessus, dont il reste aujourd'hui que la moitié. C'est-à-dire ce dôme de terre, on sait qu'il était deux fois plus haut que ce que vous avez là. Donc ça faisait une véritable colline qui était visible dans le paysage. Et pour éviter que la terre, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est relativement bien conservé, pour éviter que la terre glisse trop vite, eh bien les hommes du néolithique final ont créé une couronne de pierres tout autour, qui permet, non, tout autour à la base, hein. C'était à la base, des pierres posées de champs qui permettaient d'éviter que la terre glisse trop vite. Voilà. Et ça, ça a bien fonctionné puisque ce tumulus existe en partie. Le dolmen est plein au néolithique final. On s'en rend compte parce que c'était, il y avait déjà énormément de monde là-dedans. Et on y a trouvé des poteries entières d'une civilisation qu'on appelle le campaniforme. Le campaniforme, c'est le groupe qui est le peuple qui est intermédiaire entre le néolithique et l'âge du bronze, qu'on dit être de l'âge du cuivre. Nous sommes aux alentours de 1800-2000 avant Jésus-Christ. Et à ce moment-là, on voit apparaître les premiers objets en métal, en particulier les premiers bijoux en or. On a trouvé trois perles en or et un tortillon en or qui est au musée d'Aquitaine et qui provient donc de ce dolmen. Au bronze ancien, ils essayent encore de l'utiliser, mais c'est plein. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ne touchent plus trop l'intérieur. Par contre, ils vont aller faire des trous le long des parois à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils vont couper, ouvrir le tumulus, le dôme de terre qui est dessus, et faire des sépultures sur les montants à l'extérieur. Et donc, ils vont en fait mettre des corps tout autour du dolmen, surtout sur le fond du chevet, à l'extérieur, où là, on a trouvé une très grosse concentration d'ossements. C'est assez surprenant. Après, ça va se modifier. Avec le bronze moyen, on voit apparaître une nouvelle technique d'inhumation qui va être l'incinération. Donc avec l'incinération, ça prend moins de place. Et effectivement, on va continuer à venir enterrer là-dessus. Mais en fait, on fait des trous sur le tumulus et on met les vases cinéraires. C'est-à-dire qu'on met les vases avec les cendres du défunt dessus. Ça sert encore au bronze moyen. Ça sert au bronze final. Au bronze moyen, ils font des trous sur le dôme. Au bronze final, ils font des trous autour. Et alors la surprise, c'est qu'à l'époque gauloise, ils continuent à venir enterrer au même endroit. On ne touche pas ce qu'il y a dedans. Apparemment, ça ne sera vraiment dégagé que lors des fouilles de 1905. On n'aura pas trop endommagé ce qu'il y avait dedans. Mais au premier âge du fer, entre 700 et 600 avant Jésus-Christ, on a quelqu'un qui vient se faire enterrer ici, dont on a retrouvé la tombe entière. Alors c'est encore de l'incinération, donc c'est un gros vase, on en trouve beaucoup sur le bassin Arcachon. C'est un gros vase ovalaire comme ça, qui a été reconstitué, avec un couvercle sous forme de plat qui était posé dessus. Et qui est donc daté des alentours de 600 avant notre ère. Voilà. On n'a pas la certitude qu'après on ait continué à l'utiliser comme lieu de sépulture, mais on a trouvé de la poterie du second âge du fer, l'époque gauloise, en particulier les amphores à vin. Les amphores à vin, les Gaulois les utilisaient aussi pour les libations. C'est-à-dire que souvent, quand il y avait une sépulture, on faisait une cérémonie à base de vin sur la sépulture. Est-ce que ça appartient à ça? C'est possible. Et enfin, on a des dernières traces d'occupation qui seraient attribuées au début de l'époque romaine, 1er siècle, 2e siècle après Jésus-Christ, où là on ne comprend pas du tout parce qu'on retrouve carrément des éléments de construction, des morceaux de colonnes et des tuiles à rebord, c'est-à-dire des tuiles de toiture. Alors on a un cas en Gironde, on a un dolmen où les Romains ont bâti sur le dolmen, c'est le cas du dolmen de Cabu à Anglade, près de Blaye, où là les Romains avaient construit carrément sur le dolmen. Alors est-ce que ça a été le même cas? Le problème c'est que tumulus ayant été en partie érodé, on a trouvé que des ruines romaines, mais c'était en même temps très concentré. Alors est-ce que c'était une sépulture antique bâtie, un tombeau? Ben pourquoi pas, c'est pas impossible. Donc en fait, si vous avez bien calculé, on se trouve donc avec une occupation de plus de 3000 ans à cet endroit-là, ce qui est quand même pas mal du tout. Voilà. Alors, lorsque on a farfouillé dans le tas à côté, donc je vous ai dit, j'ai ramassé des dents, ça a permis de rajouter pratiquement une vingtaine de squelettes supplémentaires par rapport aux 80 énumérés. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Et puis, ben alors là, ça n'a pas été le cas. Je vais vous dire un petit peu le cas particulier de certains squelettes trouvés dans le dolmen. Avant de parler de ça, le problème de ce qui pourrait paraître manquer. À votre avis, il manque quoi ce dolmen?
Le couvercle.
Le couvercle, c'est-à-dire la table. Et bien figurez-vous que ça, c'est un gros problème. On a bien envisagé que dès 1876, quand le site avait été en partie pillé, ils avaient renversé la table. Seulement si ça avait été le cas, vu la grandeur du monument, on aurait trouvé au moins un morceau. On n'a rien trouvé, aucune mention en 1905-1907. André Coffin n'en a trouvé aucune trace. Et en fait, l'accumulation de ce qui avait été fait dedans et autour révélerait que dans ce cas-là, la table aurait été en bois. Nous aurions donc un dolmen mixte. Je vous signale quand même, mais ils ont souvent disparu, que l'on a fait des dolmens en bois et entièrement en bois. Et en Médoc, on a de la pierre ici, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Et donc, il a été validé dans la publication finale, il est expliqué que probablement que ce dolmen était mixte, donc les montants en pierre et la couverture
table en bois.
Tout à fait. Ça, c'est intéressant. Et la grande découverte aussi, même s'il n'y en avait pas assez, c'est que le long des montants à l'intérieur, on a trouvé des enduits sur la pierre. Et depuis, on a trouvé des dolmens au Portugal et dans le nord de l'Espagne, où en fait, on avait des enduits peints à l'intérieur. Mmh. Bon, on connaissait le plus beau dolmen du monde pour sa décoration, c'est celui de Gavrilis, dans le Morbihan, sur une île, en plein milieu. Toutes les pierres sont sculptées, c'est extraordinaire. Bon, on a essayé d'expliquer ça de façon un peu mystérieuse, spirituelle, comme vous voulez, mais il est probable qu'il y avait effectivement des enduits peints. Ces dolmens, ils étaient bâtis. Quand vous voyez les tumulus de Bougon, près de Poitiers, ou encore ceux effectivement du Morbihan, vous vous rendez compte que les montants ont calé des pierres, même entre les montants. C'était bâti, c'était maçonné. Ce sont les plus vieilles constructions qu'ait fait l'homme sur la planète. Et on les trouve en France, au passage. C'est bien de parler des cités sumériennes ou de l'Égypte, etc. C'est monumental, c'est extraordinaire. Mais nous, ils savaient quand même bâtir ça. Alors, des dolmens, si vous en cherchez sur la planète, je vous signale quand même qu'il y en a en Afrique noire, il y en a au Congo. Il y en a également en Corée. Alors, ils n'ont pas la même date. En Corée, c'est époque romaine. En Afrique noire, c'est époque médiévale. Enfin, romaine en Corée, c'est l'époque antique. Et donc, la technique mégalithique n'est pas quelque chose, malgré tout, propre à l'Occident européen. Alors, il y a des fois, ces ossements étaient manipulés, déplacés. Vous avez encore 2 secondes ou pas?
Oui.
Certains s'endorment, donc c'est pour ça.
C'est le soleil.
Alors, dernière information, et je vous libère. On a trouvé, ça avait fait là aussi sensation il y a plusieurs décennies de ça, en Dordogne, dans un dolmen près de Saint-Cyprien, on avait trouvé un crâne avec un super tronc taillé dans la boîte crânienne. On appelle ça une trépanation. Et on avait donc pensé que ça avait été fait après la mort du défunt. Une fois que le truc était mort, on a voulu garder un souvenir du défunt. Et donc, une fois qu'il était bien mort et sec, on avait coupé de rondelles de son crâne. Et on a effectivement trouvé des rondelles de crâne avec du trou qu'on portait comme pendentif.
Ça fait encore aujourd'hui. Ça.
En France? Non, sur la planète, effectivement, il y a des gens qui véhiculent les os de leurs ancêtres. Ça se faisait chez les Indiens d'Amérique du Nord également aussi. On connaissait ça depuis longtemps. Hein. Je vous signale quand même que la trépanation, au passage, c'est quelque chose qu'on a su refaire chez nous qu'avec la guerre de 14-18. C'est une chose qu'on ne savait pas utiliser. Alors c'est pour ça qu'on était persuadé que ça ne se faisait qu'une fois que le type était mort à cette époque-là. Nous sommes 2000 ans avant notre ère. Et cette découverte dans ce dolmen du côté Saint-Cyprien, dans le Périgord, a fait sensation. Pourquoi? Parce que le crâne qu'on a trouvé avec la trépanation, eh bien, il y avait des traces de cicatrisation. C'est-à-dire que tout l'os avait cicatrisé, donc le type avait survécu à cette opération. Donc ça avait été fait de son vivant. Il n'était pas mort de ça. Alors évidemment, la question, comment on peut le faire? Ça a été fait aussi l'ex, le truc. Ça a été fait comment ils l'ont endormi? On dit, bon,
non, mais il n'a pas eu la bonne
Donc ils sont autant de questions. Beaucoup ont voulu expliquer ça de façon...
culturelle.
On n'a pas voulu voir des raisons médicales. Et quand on ne sait pas, généralement, on trouve toujours des raisons culturelles, quoi, des raisons religieuses, spirituelles. C'est un petit peu embêtant. Mais la trépanation, apparemment, était quelque chose qui était faisable et qui a permis à des gens de survivre. Alors bon, ben voilà. Vous trouvez celui-ci. On n'en connaît qu'un. Moi, je connais que ce cas-là. Hein. Mais si vous visitez, je ne sais pas s'il existe encore le musée de la proto-histoire à Beynac, dans le Périgord, on présentait le crâne en question. Il était. Je ne sais pas si ça existe encore ce musée. Voilà.
Alors, comme tu as bien
vu, oui.
Pardon.
Dans la série télévisée, là.
Oui.
Il y a quelque chose. Il montre une préparation qui. Je dis pas que c'est là.
Oui, ben voilà, ça doit te faire penser à ça, oui. Parce que. Alors, on ne sait pas trop pourquoi ils faisaient ça quand même encore. Hein. Ils veulent. On peut expliquer ça de multiples façons. Voilà. Et l'accélération, elle apparaît sur la
région.
Elle développe beaucoup au bronze final. Et elle va persister chez nous jusqu'à l'époque romaine, jusqu'au 4e siècle. À l'époque romaine, 80% des Romains se font incinérer et 20% se font enterrer. Et sous l'effet du christianisme, à partir du 4e siècle, on va abandonner progressivement l'incinération qui ne disparaîtra qu'au 5e siècle, 6e siècle. Voilà. Il faudra attendre le 19e et 20e siècle pour que l'incinération réapparaisse. Enfin, tout du moins chez nous. Alors bon, quand vous fouillez une incinération comme celle qui a été trouvée dessus, là, ici, sur le tumulus, vous vous retrouvez souvent avec des morceaux d'os longs à l'intérieur. Parce que l'incinération, même aujourd'hui d'ailleurs, je vous signale, elle est toujours très partielle. C'est-à-dire que le squelette, il brûle pratiquement pas. Quand on vous donne, en sortant du crématorium aujourd'hui à Saint-Jean-d'Illac, une urne avec les cendres dedans, c'est que préalablement, on a broyé les os. Ça, on ne vous le montre pas, ça. Hein. Mais le squelette ne brûlant pas, pour que ça loge dans l'urne, on vous écrase les os avant de le donner à la famille. Voilà, donc l'incinération, elle ne peut pas être complète. Il y a tout un... Donc, à l'époque gauloise, cette incinération, comme ils n'ont pas les moyens de broyer les os comme nous, on peut le faire avec une machine, c'est fait à la machine aujourd'hui. À cette époque-là, c'était que partiel, donc souvent, on trouve quand encore des morceaux d'os longs à l'intérieur. C'est, on a la certitude qu'ils sont brûlés avec tout leur mobilier de guerre quand c'est un homme, parce qu'on a essayé de plier ensuite l'épée à l'intérieur, qu'on met également dans l'urne. On trouve des figurines, on trouve quelques objets comme ça. La nécropole la plus célèbre de notre département, elle a été trouvée du côté de Mios, la Motte Biganos, Salle, au fond du bassin d'Arcachon. C'est la plus grosse nécropole de Gironde, où on a trouvé dedans des centaines et des centaines d'aspirations de la Gifle.
Voilà. Donc les morts de Novodiogamagus, on ne sait pas où ça.
L'éventualité peut-être d'un monument funéraire sur le dolmen, ça fait un monument, mais aucune nécropole antique pour une ville de cette taille-là, ça manque, finalement. Ça manque. Alors qu'à Bordeaux, on les a repérées, hein. On sait où elles étaient. À Bordeaux, c'est le quartier de Terre-Nègre. Hein. Ça s'appelle Terre-Nègre, d'ailleurs, au passage, c'est à cause des incinérations. C'est que quand vous labourez votre petit jardin, pour ceux qu'on a encore, vous passez dans les cendres des Romains. Quoi. C'est... Voilà. Voilà, voilà. C'était les grandes lignes de notre balade de cet après-midi. On finit avec le soleil. Hein,